Chapitre 16. L'iniquité de la femme a souvent été plus louée que la bonté de l'homme. Mais au reste, quelqu'un me dira que toutes ces choses sont plus à la honte des femmes qu'à leur louange. Mais les femmes lui répondront, « S'il est absolument nécessaire que l'un de nous deux perde un bien ou même sa vie, j'aime mieux que vous fassiez cette perte que de me mettre dans le risque de le faire. » Cette réponse est fondée sur l'exemple d'Innocent III, qui écrit dans une de ses décrétales, un cardinal légal du Saint-Siège, « S'il faut nécessairement que vous ou moi nous ayons cette confusion, j'aime mieux que vous l'ayez que moi. » De plus, les lois civiles ne permettent-elles pas aux femmes de pourvoir leur sans-sûreté, même au préjudice d'autrui? Ne voyons-nous pas encore dans l'Écriture les fautes des femmes souvent plus louées que les bonnes actions des hommes? Rachel n'y reçoit-elle pas des louanges pour avoir su adroitement tromper son père, qui cherchait ses idoles qu'elle avait empruntées? N'y a-t-il pas parlé avec éloge de l'action de Rebecca, qui fut cause que Jacob surprit Isaac, son père, et obtint sa bénédiction? Son adresse n'y est-elle pas louée d'avoir su préserver Jacob de la colère d'Ésaü, son frère? Rahab, qui était une femme de mauvaise vie, trompa ceux qui cherchaient les espions de José, et celui-là est réputé à justice. Jaël sortit au devant de Sisara et lui dit, « Obligez-moi, mon seigneur, d'entrer chez moi. » Il lui demande du lait à boire et lui en donne. Elle le couvre et le cache pour le laisser reposer. Mais lorsqu'il fut endormi, elle entra secrètement, lui enfonça un gros clou dans la tête et tua ainsi le malheureux Sisara qui avait cru en sûreté entre ses mains. Cependant, à cause de cette insigne trahison, l'Écriture dit à Jaël qu'elle soit bien comblée de louanges et de bénédictions dans sa tente, plus que toutes les autres femmes. Lisez l'histoire de Judith et faites attention à ce discours qu'elle tint à Holoferne. « Ajoutez foi, lui dit-elle, aux paroles de votre servante, parce que si vous le faites, le Seigneur vous fera réussir sur tout ce que je viendrai découvrir toute chose, jusqu'à ce qu'enfin je vous fasse entrer dans Jérusalem. Vous vous rendrez maître de tout le peuple d'Israël. Comme d'un troupeau de brebis qui n'a point de pasteur, il n'y aura pas seulement un chien qui aboie contre vous. » Le Seigneur mon Dieu a eu la bonté de me révéler toutes ces choses. Mais après l'avoir amusé par ses discours flatteurs, lorsqu'il fut plein de vin, elle lui coupa la tête. Du premier regard, il n'y a point d'entreprise qui paraisse plus juste que celle de Judith. On ne peut rien penser de plus cruel, point de piège, point de trahison plus droite et mieux concertée. C'est pourtant pour cette action que l'Écriture la bénit, la loue et l'élève par ses éloges. L'iniquité de la femme a donc été regardée comme valant encore mieux que la bonté de l'homme. Cain ne faisait-il pas une bonne chose en offrant à Dieu ce sacrifice, les prémices des fruits de la terre, et ce sont ces sacrifices qui l'ont rendu désagréable à Dieu? Ésaü n'était-il donc pas louable lorsque, pour plaire à son père, qui était une faible vieillesse, il va à la chasse chercher de quoi lui donner à manger, et pendant ce temps, la bénédiction de son père lui est enlevée, et Dieu lui fait sentir sa haine. Osa, par zèle pour sa religion, veut soutenir l'arche qui va tomber, et dans le moment, il est frappé de mort. Le roi Saül prépare à Dieu un sacrifice magnifique des dépouilles des Amalécites vaincus, et Dieu lui ôte sur son royaume et le livre à un esprit méchant. Les filles de Lot ne sont point punies pour inceste qu'elles avaient fait commettre à leur père, et Lot qu'elles avaient enivré est puni. Sarah s'est chassée de l'église de Dieu. L'inceste de Tanar est creux excusé, et elle est regardée comme étant la plus juste que le patriarche Judas. Par son inceste frauduleux, elle continue la ligne de génération d'où devait sortir le serveur, sauveur. Loin d'ici donc ces hommes hautains et présomptueux, et vous, beaux esprits, dont les têtes sont toutes hérissées de lauriers, et qui semblez enflés d'une nouvelle Pallas, que votre cerveau va vous enfanter, comment vous y prendriez-vous à présent pour nous prouver le sentiment contraire à celui que vous nous établir? Apportez autant d'exemples pour prouver que l'iniquité de l'homme vaut mieux que la bonté de la femme. Vous ne pouvez pas soutenir ce sentiment à moins d'avoir recours à un sens allégorique, ce qui vous est également permis de faire pour la femme, comme à vous pour l'homme. Mais revenons à notre sujet. Chapitre 17. L'excellence de la femme est prouvée par les principes d'Aristote. On peut tirer une preuve très évidente et très convaincante de l'excellence de ce sexe fortuné, de ce que la plus digne et la plus noble créature qui ait jamais été et qui sera jamais, c'est une femme. C'est la très sainte Vierge. Elle a été seule conçue sans participer au péché originel. C'est ce qui fait que Jésus-Christ même, en ne faisant attention qu'à sa nature humaine, n'est pas au-dessus d'elle. Aristote le prouve de la manière suivante. Ce qui se rencontre de meilleur dans un genre est plus noble que ce qui se trouve meilleur dans un autre genre. Le premier genre est plus noble que l'autre genre. Or, la Sainte Vierge est ce qu'il y a de meilleur dans le genre des femmes. Saint Jean-Baptiste est ce qu'il y a de meilleur dans le genre des hommes, mais aucun catholique n'ignore comment la Vierge est au-dessus de Saint Jean. Elle qui a été élevée au-dessus de tous les cœurs des anges, donc le genre féminin n'est plus noble que le genre masculin. On peut encore raisonner ainsi. Lorsque ce qu'il y a de plus mauvais dans un genre est pire que ce qu'il y a de plus mauvais dans un autre genre, ce premier genre est moins noble que l'autre. Or, nous savons que la plus mauvaise et la plus vicieuse de toutes les créatures, c'est l'homme. Soit que c'ait été Judas qui trahit Jésus-Christ et qui dit de lui « Il eût mieux valu pour cet homme-là n'être jamais né », soit que ce doive être l'Antéchrist en qui résidera toute la puissance du démon. Et de plus, nous trouvons dans la Sainte Écriture les noms de plusieurs hommes condamnés au supplice éternel, mais il n'est point fait mention d'aucune femme damnée. On peut ajouter encore à ceci le grand avantage qu'ont les bêtes, en ce que le plus noble est le roi de tous les oiseaux, qui est l'aigle, est toujours femelle. Les Égyptiens rapportent que le phénix, cet oiseau unique dans son espèce, est toujours femelle. Le roi des serpents, au contraire, qu'on appelle un basilic, dont le venin est le plus dangereux qu'il y ait, est toujours mâle, et même il serait impossible qu'il en pût naître qui fût femelle. Chapitre 18. Tout le mal vient des hommes et le bien vient des femmes. On peut encore tirer plusieurs preuves très fortes de l'excellence, de la probité et de l'innocence des femmes, de ce que tous les maux ont commencé par les hommes et non par les femmes. En effet, c'est Adam qui est le premier pécheur, qui osa transgresser la loi de Dieu, qui a fermé les portes du ciel et nous a rendus sujets au péché et à la mort. Car nous avons tous péché et sommes tous morts en Adam et non en Ève. Caïn, le fils aîné d'Adam, a le premier ouvert les portes de l'enfer. Il a été le premier envieux, le premier homicide, le premier fratricide et le premier qui est désespéré de la miséricorde de Dieu. Lamèche a été le premier qui ait eu deux femmes. Noé s'est enivré le premier. Cam a été le premier enfant qui a déshonoré son père. Nemrod a été le premier tyran, le premier idolâtre. Le premier adultère a été un homme. Le premier incestueux a été un homme. Les hommes ont les premiers fait les pactes avec le démon et ont les premiers inventé les arts et les sciences profanes. Les enfants de Jacob ont les premiers vendu leurs frères. Pharaon, roi d'Égypte, a le premier fait mettre à mort des enfants. Ce sont les hommes qui, les premiers, sont tombés dans les dérèglements contraires à la nature. Témoins Sodome et Gomorre, ces villes autrefois superbes, qui ont été réduites en cendres à cause des péchés des hommes seuls. Nous trouvons dans toutes les histoires, des hommes qui, par un excès de volupté, ont eu plusieurs femmes à la fois. Nous en trouvons qui ont été adultères et fornicateurs. Ainsi, nous lisons que Lamech, Abraham, Jacob, Ésaü, Joseph, Moïse, Samson, Éléana, Saül, David, Salomon, Assur, Roboam, Abia, Calf, Assuérus et une infinité d'autres ont eu plusieurs femmes, sans compter le grand nombre de leurs concubines. Plusieurs même n'ont pas encore été satisfaits de cette multitude de femmes. Pour assouvir leur luxure, ils se sont encore servis de leurs esclaves. Mais pour les femmes, on n'en trouvera aucune, excepté Bethsabée, qui n'ait été contente d'un seul mari. Et on ne verrait aucune femme s'être remariée si elle eût eu des enfants de son premier mari. Car les femmes ont beaucoup plus de continence que les hommes. Nous en voyons même qui, se trouvant être stériles, se sont privées des approches de leur mari et leur ont substitué d'autres femmes dont ils puissent avoir des enfants, comme il est rapporté de Sarah, Rachel, Lia et d'autres qui, étant stériles, ont donné leurs servantes à leur mari, afin qu'ils ne demeurent pas sans enfant. Mais quel est l'homme, je vous prie, si vieux, si cassé, si froid, si stérile et si inepte qu'il puisse être, qui ait assez de tendresse et de complaisance pour une femme, pour lui en substituer une autre à sa place, et que n'est-ce pas inutile ses heureuses dispositions? Nous lisons cependant que Lycurgue et Solon, ces sages législateurs, avaient ordonné que si un homme ou trop âgé ou peu propre au mariage avait épousé une jeune fille, il serait permis à sa femme de choisir un jeune homme fort et vigoureux avec qui elle pût prendre ses ébats, avec cette seule condition que les enfants qu'elle aurait de lui seraient réputés être de son mari et ne seraient point regardés comme illégitimes. Nous lisons bien que ces lois ont été établies, mais nous ne voyons point qu'elles aient été observées, moins par la dureté des maris qu'à cause de la grande continence des femmes. Il y a encore un grand nombre de femmes illustres qui se sont signalées plus que tous les hommes par leur continence et leur modération, quoique engagées dans le mariage. Telles ont été Abigail, femme de Nabal, Artémis, femme de Mosol, Julie, femme de Pompée, Portia, femme de Caton, Cornélie, femme de Gracchus, Messaline, épouse de Sulpice, Alceste, mariée à Hémètre, Hippocrate, femme de Mithridate, roi du Pont, Didon, qui a bâti Carthage, etc., et une infinité d'autres qui ont mieux aimé mourir que de survivre à la perdre leur honneur ou de leur virginité, comme par exemple Atalante, Catilodine, Camille du pays des Vols, Iphigénie de Grèce, Cassandre et Crise. On peut même mettre dans le même nombre les vierges de Lacédémone, de Sparte, de Milésie et de Thèbes, sans en nommer une infinité d'autres dont il est fait mention dans les histoires des Hébreux, des Grecs et des peuples barbares, lesquelles filles ont plus estimé leur virginité que des royaumes et leur vie même. Chapitre 19. Les mauvais maris font seuls les mauvaises femmes. Si l'on veut des exemples de tendre amitié des femmes, se présente entre autres celui de Claudie, cette vestale qui donna de si belles preuves de son amour pour son père, et celui que nous avons déjà rapporté de cette fille qui nourrit sa mère de son lait. Mais quelqu'un comme Zoé l'opposera à tout ce que je viens de dire, les mariages funestes de Samson, de Jason, de Déiphobe, d'Agamemnon et d'autres qui font le sujet des tragédies, lesquelles, étant examinées avec soin, on conviendra que c'est à faux qu'on donne le tort aux femmes, puisqu'il n'est jamais arrivé qu'un homme de bien ait eu une mauvaise femme. En effet, il n'y a jamais que les mauvais maris qui aient de mauvaises femmes, lesquelles, souvent, ils les ont rendues mauvaises par leur faute, de bonnes qu'elles étaient, lorsqu'ils les ont eues. Croyez-vous, s'il eût été permis aux femmes d'établir des lois et d'écrire des histoires, combien aurait-elle pu composer de tragédies sur l'homme malice des hommes? En effet, combien y a-t-il d'hommes qui sont homicides, voleurs, brigands, faussaires, incendiaires et traîtres? Il y en avait un si grand nombre, de cette sorte, du temps de Josué et de David, qu'ils avaient leur chef et leur commandant. Le monde en est encore peuplé aujourd'hui. Les prisons sont toutes pleines d'hommes, et tout est couvert de cadavres des suppliciés. Chapitre 20. Les femmes sont les auteurs de tout ce qu'il y a de bon. Mais les femmes ont inventé tous les arts qu'on appelle libéraux et sont les auteurs de toute vertu et de tout bien. C'est pour cela que toutes les sciences et les vertus ont des noms féminins. Et ce qui est encore bien remarquable, c'est que toutes les parties du monde portent des noms de femmes. L'Asie est ainsi nommée du nom d'une nymphe appelée Asie. L'Europe du nom d'Europe, fille d'Agénor. La Libye, du nom de la belle Ifafaf, on la nomme aussi Afrique. Enfin, si nous descendons dans le détail de toutes les vertus, nous trouvons que les femmes y tiennent toujours la première place. En effet, ça a été une femme qui a la première consacré à Dieu sa virginité, et c'est la Vierge Marie qui a mérité d'être la mère de Dieu. Les femmes qui ont été douées du don de prophétie ont toujours eu des inspirations plus fortes que les hommes. Ce qui est certain, par l'exemple des sites, comme l'atteste Lactance, Eusèbe et saint Augustin. Nous voyons Marie, sœur de Moïse, prophétiser, et pendant que Jérémie était dans la prison, Dieu suscita son peuple Ophla, qui était la femme de l'oncle de Jérémie, pour prophétiser au peuple d'Israël sa perte prochaine. Ce que son époux n'avait pu faire. Parcourons les saintes écritures et nous y verrons la constance des femmes dans la foi et dans la pratique des autres vertus, élevées beaucoup au-dessus de celles des hommes, comme dans Judith, Ruth, Esther, lesquelles ont été comblées de tant de louanges et d'honneurs qu'il y a des livres parmi ceux que l'Église reconnaît qui portent leur nom. Abraham même, que l'Écriture appelle juste à cause de sa grande foi, est cependant assujetti à sa femme, et le Seigneur lui fut son complément, son commandement. Faites exactement ce que vous dira votre femme. C'est ainsi que nous voyons Rebecca, qui croit à la parole de Dieu et mérite que le Seigneur, répondant à sa prière, lui révèle ce grand miracle. Il y a deux nations dans votre ventre, il en sortira deux peuples. La veuve de Sarepta crut Élie, quoi ce que lui fit dire fut très difficile à croire. Le prêtre Zacharie ne crut point à sa parole de l'ivange, il en fut repris et devint muet. Mais Élisabeth, sa femme, y ajouta foi. C'est pourquoi sa langue et son ventre prophétisèrent. Et elle félicita la Sainte Vierge en lui disant « Que vous êtes heureuse d'avoir cru ce que le Seigneur vous a dit !» Anne, la prophétesse, ayant entendu le témoignage de Siméon, reconnut le Seigneur Jésus et en parlait à tous ceux qui la voyaient entendre et qui espéraient le salut d'Israël. Philippe avait 4 filles vierges qui prophétisaient. Que dirais-je de la Samaritaine, avec qui Jésus-Christ s'entretenait auprès du puits de Jacob? Sa foi rassasia tellement le Sauveur qu'il ne voulut point prendre des aliments que lui présentèrent ses disciples. Mais que dirais-je encore de la foi de la Cananéenne et de cette femme qui avait une perte de sang depuis longtemps? La foi et la confusion de Marthe n'étaient-elles pas semblables à la confession de Saint-Pierre? Les évangiles nous ont assez fait connaître la loi de la Madeleine était grande et constante, car pendant que les prêtres et les juifs crucifient Jésus-Christ, elle pleure au pied de sa croix. Elle porte des parfums pour embaumer son corps. Elle le cherche dans le tombeau. Elle interroge le jardinier qu'elle rencontre. Elle connaît que cet homme est Jésus-Christ. Elle va trouver les apôtres et leur apprend que leur maître est ressuscité. Ils en doutent, et elle croit avec confiance. Puis-je ne rien dire de cette sainte femme appelée Priscille, qui enseigna Apollon, qui fut un homme apostolique, qui excellait dans la science de la religion, et qui fut évêque de Corinthe. Ajoutez à tout cela que le nombre des femmes qui ont sacrifié leur vie et ont souffert le martyre avec patience pour la défense de leur foi n'est pas moindre que celui des hommes. Mais je ne puis passer sous silence cette femme admirable dont la mémoire durera tant qu'il y aura des gens de bien. Cette mère courageuse voyait non seulement avec fermeté ses 7 enfants souffrir sous ses yeux un martyr cruel, mais encore elle les exhortait à la mort, et elle-même, qui avait toujours mis confiance en Dieu, fut aussi mise à mort après ses enfants pour la religion de ses pères. N'a-t-on pas vu les filles gagner à Jésus-Christ des peuples sans nombre? Les Lombards furent convertis par Théododinde, qui était fille du roi de Bavière, les Hongrois par Grégise, qui était sœur de l'empereur Henri Ier, les Français par Clotilde, la fille du roi des Bourguignons, les Hibernois, enfin, furent ramenés à la foi par une certaine fille apostolique d'une basse condition. Mais ceux-là seuls sont de véritables chrétiens qui ont conservé toujours la foi catholique et qui vivent dans la pratique des bonnes œuvres. Chapitre 21. Rien de grand et d'illustre que n'aient fait et puissent faire les femmes également comme les hommes. Mais afin que personne ne doute que les femmes ne puissent faire tout ce que les hommes n'ont jamais fait, nous allons prouver par plusieurs exemples que les hommes n'ont jamais rien fait de grand et de remarquable en quelque genre d'action que ce soit, que les femmes n'aient fait les mêmes choses avec autant d'éclat et de succès. Et premièrement, dans le sacerdoce, plusieurs femmes parmi les païens s'y sont acquis un grand nom, comme Mélisse, prêtresse de Cybèle. Son nom a été dans la suite toujours donné aux prêtresses, qu'on appelait Mélisse. Nous avons encore Hypercotrie, princesse de Minerve, Méra, princesse rétresse de Vénus, Iphigénie, prêtresse de Diane, et toutes les femmes consacrées à Bacchus, lesquelles avaient plusieurs noms. On les appelait les Thyades, les Ménades, les Bacchantes, les Héliades, les Mimalénides, les Aédonides, les Éatiades, les Bacides et les Triarides. Chez les Juifs, Marie, sœur de Moïse, entrait dans le sanctuaire avec Aaron, et on la regardait comme consacrée au service de Dieu. Dans la religion chrétienne, quoique les fonctions de sacerdoce ne se confient point aux femmes, l'histoire nous apprend cependant qu'une femme, ayant déguisé son sexe, parvint jusqu'à la dignité de souverain pontife. Tout le monde connaît la sainteté de nos abbesses et de nos religieuses, que les auteurs anciens ne dédaignent pas d'appeler prêtresses. Plusieurs femmes parmi les peuples de toutes sortes de religions se sont rendues recommandables par leur don de prophétie. Telles sont Cassandre, les Sibylles, Marie, sœur de Moïse, Déborah, Huldah, Anne-Élisabeth, les quatre filles de Philippe, et plusieurs autres dans les temps moins reculés, comme Saint Brigitte et Hildegarde. Plusieurs femmes, entre autres Médée, ont encore exercé dans la magie, qui est la connaissance des bons ou des mauvais démons. Elles ont fait des choses plus surprenantes que l'on a fait Zoroastre même, qu'on dit être le premier qui se soit appliqué à cette science. Combien y en a-t-il qui ont fait des progrès inconcevables dans la philosophie? Elles ont été Théano, la femme de Pythagore, et Danéa, sa fille, qui acquit un grand renom en développant et en expliquant les opinions de son père. Nous voyons encore Aspasie et Diotime, qui furent disciples de Socrate, Mantinée, Phrasie et Axiochie, qui écoutèrent Platon. Plotin parle avec éloge de Gémine et d'Amphiclée. Lactance fait mention de Thémiste. L'Église catholique fait l'éloge de Sainte Catherine, qui surpassa en science tous les philosophes de son temps. Il ne faut pas oublier la reine Zélobie, qui fut disciple du philosophe Longin. À cause de son grand progrès dans les sciences, elle fut surnommée Éphanis. Nicomaque a traduit ses excellents ouvrages. Mais passons de la poésie à l'éloquence. Il s'offre d'abord Armésie, surnommée Androgénie, Hortensie, Lucrèce, Valère, Capiole, Sappho, Corinne, Corducie, Romane, Éric, Tal ou Thesbie, qu'on a surnommée fameuse faiseuse d'épigrammes. Salluste fait mention de Sempronie. Les jurisconsultes allèguent Calpurnie. Et si ce n'est qu'il est un peu d'usage aujourd'hui que les femmes s'appliquent aux belles lettres, il y avait un nombre infini de femmes qui fleuriraient et brilleraient plus que les hommes. Chapitre 22. Les femmes savent toutes choses naturellement. Que dirais-je de ce bienfait particulier de la nature par lequel les femmes surpassent aisément et sans étude ceux-mêmes qui sont maîtres dans chaque art? Les grammairiens ne se vantent-ils pas d'être les maîtres du beau langage? Mais nos nourrices et nos mères savent mieux nous apprendre notre langue que ne feraient les grammairiens. Cornélie n'a-t-elle pas formé à l'éloquence les Gracques, ses enfants? Silas, fils d'Empite, roi de Satsiti, n'a-t-il pas appris de sa mère la langue grecque? Les enfants qui sont nés dans des colonies fort éloignées n'ont-ils pas toujours conservé la langue de leur mère? C'est pour cette raison que Catilien avertit si soigneusement qu'on prenne garde de donner aux enfants des nourrices qui aient quelque éducation, afin que les enfants apprennent à parler comme il faut. Les poètes dans leurs jeux d'esprit, dans leurs fables, les dialecticiens dans leurs disputes puériles et leurs babils sans fin, ne voient-ils pas, se voient-ils pas surpassés par les femmes? Il n'y a point encore eu d'orateur assez persuasif et assez heureux qui ait mieux attrapé l'art de persuader que la moindre femme Quel est l'arithméticien assez fin pour tromper une femme par ses faux calculs lorsqu'il lui paye ses dettes? Quel est le musicien qui ait la voix plus douce et plus agréable que celle de la femme? Les femmes de la campagne ne surpassent-elles pas souvent, par leurs prédictions et leurs pressentiments de ce qui doit arriver, les philosophes, les mathématiciens, les astrologues? Une femme de néant a souvent fait de plus belles œuvres, de plus belles cures, que des médecins célèbres. Socrate, qui est le plus sage de tous les hommes, ne dédaigna pas, quoique dans un âge avancé, d'apprendre quelque chose d'une femme nommée Aspasie, comme le rapporte Python. Apollon, pareillement, fut enseigné par Priscille. Chapitre 23. Prudence et sagesse des femmes. Que si l'on désire des exemples de prudence des femmes, nous trouvons Opis parmi les déesses, Plotine, femme de Trajan, Amasonte, Rhemnes Rostrogo, Émilie, femme de Scipion. On y peut ajouter la prudente Déborah et la femme de Labidote, laquelle, comme on lit dans le livre des Juges, conduisit quelque temps le peuple d'Israël et jugeait toutes les contestations des particuliers. Barak, ne voulant point donner bataille, cette femme fut choisie pour commander les armées. Elle attaqua l'ennemi, le battit, le mit en fuite et remporta une victoire signalée. On lit encore dans le livre des Rois qu'une femme nommée Athalie régna dans Jérusalem et jugea le peuple pendant 7 ans. On voit Sémiramis, après la mort du roi Ninus, juger les peuples pendant 40 ans. Toutes les candances vinrent le gouvernement de l'Éthiopie avec prudence et beaucoup d'éclat. Il en est parlé dans les Actes des Apôtres, et Joseph l'historien raconte d'elle des choses admirables. Il ne faut pas oublier cette reine de Saba nommée Nicole, laquelle vint des extrémités de la terre pour entendre la sagesse de Salomon. Cette femme, selon le témoignage de Jésus-Christ, condamnera un jour les hommes de Jérusalem. Nous connaissons encore la grande sagesse de Thocnides, cette femme embarrassa David par ses interrogations. Elle l'avertit de son devoir d'une manière énigmatique et elle l'adoucit par l'exemple de Dieu qu'elle lui proposa. Nous ne citerons plus qu'Abigail et Bethsabée, dont la première délivra son mari de la colère de David, qu'elle épousa après la mort de Nabal, et l'autre obtint par sa prudence le royaume pour Salomon son fils. Chapitre 24. Aux faits et bravoure des femmes. Les femmes se sont encore illustrées par plusieurs savantes découvertes, telles sont Isis, Minerve et Nicocrate. D'autres ont fondé des empires et des villes, comme Sémiramis, qui commandait à tout l'univers, comme Didon et les Amazones. Les femmes se sont aussi distinguées dans les combats, entre autres Comins, reine des Massagotes, laquelle défie Cyrus, roi des Perses, Camille du pays des Volsques et Valisée de Bohême, qui ont été les deux puissantes reines. Les pentes des Indiens, les Amazones, les Canas, les femmes de Lemnos, de Perse et de plusieurs autres pays. L'histoire fait encore mention de plusieurs femmes illustres qui, par leurs courageuses entreprises, ont sauvé leur patrie, qui était près de sa ruine. Judith est de ce nombre. Voici comment la loue Saint Jérôme. Regardez la veuve Judith, qui est un exemple de chasteté. Ne cessez point de lui donner des louanges. Il la propose pour modèle, non seulement aux femmes, mais même aux hommes, parce que Dieu, qui récompense sa chasteté, lui a donné un courage si grand qu'elle a vaincu celui qui ne l'avait pas été jusqu'alors et qu'elle a terrassé un ennemi formidable. Nous lisons encore qu'une certaine femme pleine de sagesse, appelée Joab, et lui mit dans les mains la tête de Siba, l'ennemi de David, afin qu'on épargnât la vie d'Abella, qui était la ville la plus considérable des Israélites. Une autre femme, en jetant d'une fenêtre un morceau d'une meule de moulin, écrasa la tête d'Abimelech. Dieu se servit de cette femme pour punir ce malheureux, parce qu'il avait péché contre le Seigneur et qu'il avait affligé son père en faisant égorger sur la même pierre ses 70 frères. Nous voyons Esther qui, devenue l'épouse du roi Assuérus, délivre son peuple d'une mort honteuse et lui procure beaucoup de gloire. Les Volsques, tenant la ville de Rome assiégée sous le commandement de Cléus Marcius Coriolan, Véturie, sa mère, qui était fort âgée, conserva la ville en faisant une réprimande à son fils. Artémise, se voyant accablée par les Rhodiens, défit leur flotte, s'empara de leur île et éleva dans la ville de Rhodes une statue qui exprimait sa haine contre les habitants de cette ville. Mais qui pourra donner assez de louanges à cette île qu'on appelle la Pucelle d'Orléans, qui, quoique d'une basse extraction, s'est cependant rendue très illustre? L'année 1428, les Anglais ayant pénétré bien avant dans la France, cette fille, comme une nouvelle Amazone, prit les armes, se mit à la tête de nos armées et combattit avec tant de courage et de bonheur qu'après avoir vaincu les Anglais dans plusieurs continents, elle reconquit le royaume des Français, qui était presque tout perdu. Pour conserver le souvenir de cette éclatante action, on a élevé à cette fille valeureuse une statue à Orléans, sur le pont de la Loire. Je pourrais citer des histoires, des Grecs, des Latins et d'autres peuples, tant anciennes que nouvelles, une infinité d'exemples de cette sorte. Mais cela me mènerait trop loin. J'ai dessein d'être court. En effet, Plutarque, Valère, Boccace et plusieurs autres rapportent un grand nombre d'histoires de femmes qui se sont rendues recommandables. C'est pourquoi il reste encore plus de choses à dire à la louange des femmes que je n'en ai dit. D'ailleurs, je ne suis pas assez présomptueux pour m'imaginer pouvoir refermer dans un si petit ouvrage tout ce qu'il y a de belles qualités et de vertus dans les femmes. Car qui serait assez habile pour développer et mettre dans son jour tout ce qu'il y a de louable en elles? Elles de qui nous tenons l'être, par qui le genre humain se perpétue éternellement, et enfin par qui se maintiennent les familles et la République entière. Chapitre 25. Marques d'honneur rendues à la femme. Le fondateur de la ville de Rome, persuadé que son empire ne durerait guère s'il n'y avait de femmes, en voyant qu'il n'en avait point, ne fit pas difficulté de s'engager dans une guerre cruelle avec les Sabins en leur enlevant leurs filles. Les Sabins se rendirent maîtres du Capitole. Les deux peuples se livrèrent un sanglant combat dans la place publique. Mais les femmes s'étant mises entre les deux armées, le combat cessa. Les Romains firent la paix avec les Sabins et firent amitié ensemble. C'est pourquoi Romulus donna aux Curies les noms de ses filles, par lesquelles il divisa son peuple, et les Romains demandèrent qu'on mît par exception dans les tables publiques que la femme ne vaudrait point le blé et ne ferait point la cuisine. On défendit que la femme reçut rien de son mari, ni le mari de sa femme comme un présent, afin qu'ils sussent que tout était commun entre eux. C'est pourquoi, dans la suite, l'usage était que celui qui introduisait les épouses leur fixait dire à son époux « Oui, vous êtes, j'y suis », comme s'il lui dit « Oui, vous êtes le seigneur et maître, je suis maîtresse ». Ensuite, après l'expulsion des rois, les Volsques, sous le commandement de Coriolan, s'étant avancés jusqu'à la cinquième pierre, ils en furent chassés par le moyen des femmes. En reconnaissant de ce bienfait, on consacra un temple magnifique à la bonne fortune des femmes. De plus, par arrêt du Sénat, on déféra aux femmes plusieurs marques d'honneur et de gloire. Entre autres, il fut ordonné que les hommes leur céderaient toujours le côté le plus élevé, le plus honorable dans la rue. On leur permit encore de porter des habits de pourpre avec de franges d'argent, de s'orner de diamants, de boucles d'oreilles, de bagues et de colliers. Les empereurs, dans la suite, ont eu soin que lorsqu'il y aurait défense en quelque lieu de porter certains habits ou certaines parures, ces lois ne regardassent jamais les femmes. On leur a donné droit aux successions, aux héritages. Les lois ont encore promis qu'on accompagnât les funérailles des femmes de discours et d'éloges funèbres, comme on le fait à celles des grands hommes. Nous voyons que, n'ayant pas assez d'argent dans Rome pour satisfaire un vœu de Camille qui avait promis un présent considérable à Apollon de Delphes, les femmes donnèrent, de leur plein gré, tous leurs joyaux. Nous voyons encore dans la guerre qu'avait Cyrus contre Astyage que l'armée des Perses était mise en fuite et elle se rallia, piquée par les reproches des femmes, revint au combat et emporta une illustre victoire, en reconnaissance de quoi Cyrus ordonna que les rois de Perse, en entrant dans la ville, donneraient à chaque femme une pièce d'or. Ce qu'Alexandre fit deux fois qu'il entra dans cette ville. Cyrus ordonna encore qu'on donnerait le double aux femmes enceintes. Les femmes ont été comblées, donc, de marques d'honneur, dès le temps des plus anciens rois des Perses et de la naissance de l'Empire romain. Les empereurs même n'ont pas eu de moindre égard pour elles. C'est pourquoi l'empereur Justinien a cru devoir consulter sa femme sur toutes les lois qu'il établissait. Une desquelles dit que la femme brille de la gloire de son mari, qu'elle soit couverte de son éclat, afin qu'autant que le mari sera élevé en homme d'honneur et en dignité, sa femme soit aussi avec lui. C'est pour cela que la femme d'un empereur est appelée impératrice, la femme d'un roi, titre de reine, celle d'un prince, celui de princesse, quelle que soit sa naissance. Et Ulpia dit encore, le prince, c'est-à-dire l'empereur, n'est pas soumis aux lois, mais Augusta, qui est l'épouse de l'empereur, quoiqu'en elle-même elle y soit soumise, cependant l'empereur lui communique et partage avec elle ses privilèges. C'est pour cette raison qu'il est permis aux femmes de condition d'opiner et de juger dans les affaires, de faire arrêter les gens à leur service et de décider les contestations agitées contre leurs vassaux. C'est encore pour cela qu'une femme peut avoir ses domestiques, de même que son époux. Elle peut même être arbitre dans les différentes personnes qui ne lui appartiennent pas. La femme peut même faire porter son nom à sa famille, de sorte que les enfants, mâles, aient le nom de la mère et non celui du père. Chapitre 26. Privilèges accordés à la femme par les lois. Les femmes ont encore de grands privilèges dans ce qui regarde leur dot. Les lois sont expresses là-dessus, en différents endroits du corps du droit. Il est même ordonné, pour la sûreté des femmes, et afin que leur réputation ne soit point flétrie, qu'aucune d'elles ne peut être mise dans les prisons pour dette civile. Bien plus, la loi menace de mort le juge qui aurait fait emprisonner. Si une femme est soupçonnée d'avoir fait quelque faute, la loi ordonne qu'on mette dans un couvent ou qu'on laisse à des femmes le soin de la faire enfermer. La raison de cela est, comme l'insinue la loi, que la femme est meilleure que l'homme parce que, pour une même faute, il est beaucoup plus répréhensible qu'elle. Azot, dans sa somme, et le spéculateur touchant les dénonciations, rapportent plusieurs autres privilèges accordés aux femmes. Chapitre 27. Les femmes sont capables de tout, l'histoire en fait foi. Nous voyons encore que Lycurgue et Platon, ces anciens législateurs, ces chefs de la République, ces hommes illustres, par leur sagesse, leur savoir et leur prudence, convaincus par les lumières de la philosophie que les femmes ne sont pas moindres que les hommes, par l'excellence de leur esprit, la force de leur corps et la dignité de leur nature, nous voyons, dis-je, ces hommes les plus sages de l'Antiquité, ordonner que ces femmes s'exerçassent comme les hommes à la lutte et aux autres exercices du corps, qu'elles apprissent la discipline de la guerre, à tirer de l'arc, jeter des flèches, à se servir des frondes, à lancer des pierres, à combattre, armées, soit à pied, soit à cheval, à disposer un camp, ranger une armée en bataille, à la conduire. En un mot, il voulait que tous les exercices des hommes fussent communs aux femmes. Si nous lisons d'anciennes histoires dignes de foi, nous y verrons les hommes de la Gétulie, de la Bactriane, aujourd'hui le Corsan, de la Galice en Espagne, croupir dans la mollesse et l'oisiveté, tandis que les femmes cultivent la campagne, bâtissent des maisons, font les affaires, montent à cheval, font la guerre et prennent tous les soins qui sont parmi nous le partage des hommes. Dans la Cantabre, aujourd'hui la Biscaye, les hommes apportaient leur dot en se mariant. Les sœurs faisaient les mariages de leurs frères, et les filles étaient les premiers héritiers. Parmi les Scythes, les Thraces et les Gaulois, les femmes et les hommes faisaient conjointement toutes choses. Les femmes traitaient de la paix et de la guerre, et elles avaient leur voix dans les jugements et les délibérations. Le traité des Celtes avec Hannibal en est une preuve, et le voici. Si quelqu'un des Celtes se plaint d'avoir reçu des torts de la part de quelques Carthaginois, les magistrats et les généraux des Carthaginois qui se trouvant en Espagne en seront juges. Mais si un Celte a fait quelque injustice à un Carthaginois, les femmes en seront juges. Chapitre 28. L'État où est la femme aujourd'hui est par usure pas sûr de ses droits. Mais la tyrannie et l'ambition des hommes ayant pris le dessus, contre l'ordre du Créateur et l'institution de la nature, la liberté qui avait d'abord été accordée aux femmes leur est ôtée aujourd'hui, me direz-vous, par les lois, l'usage universel de tous les peuples y est opposé, et la manière dont on élève les femmes les en éloigne. En effet, à peine une fille est-elle née, on la tient renfermée dans la maison, sans l'occuper à rien de solide ou de sérieux. Et comme si elle n'était pas capable de plus grande chose, on veut qu'elle fasse son unique occupation de son fil et de son aiguille. A-t-elle atteint l'âge de puberté, on la met sous la dure domination d'un mari, ou on la renferme pour toute sa vie dans un monastère. Les lois l'éloignent de toute chose publique. Quelque esprit qu'elle ait, on ne lui permet point de parler dans le barreau. On ne lui accorde aucune juridiction, aucun droit d'arbitre, d'adoption, d'opposition. On ne lui confie nulle affaire. On ne la reçoit point pour tutrice ou curatrice. Elle ne peut se mêler ni de testament, ni d'affaires criminelles. On interdit la prédication aux femmes, quoique l'Écriture dise dans Joël « Vos filles prophétiseront » et que du temps des apôtres, elle enseigne publiquement, comme il est dit d'Anne, les filles de Pompée et de Possile. Mais les derniers législateurs ont été bien différents des premiers. Ils ont regardé les femmes comme beaucoup au-dessus des hommes. Les femmes doivent cependant se soumettre à ces lois, comme les vaincus sont obligés de céder à l'autorité des vainqueurs. Ce ne sont point les lois de la nature, ni du Créateur, ni encore moins la raison qui les y obligent, mais une malheureuse coutume, une fatale éducation, leur sort malheureux et hasard injuste les y engage. Chapitre 29. La femme n'est point faite pour obéir à l'homme. Mais il y a des hommes qui veulent faire servir l'Écriture à les disculper de la tyrannique autorité qu'ils ont prise sur les femmes. Ils croient leur domination bien établie sur ces paroles que Dieu adressa à Ève après sa chute. Tu vivras soumise à ton mari, et il dominera sur toi. Ils ont ces mots continuellement dans la bouche. Et si on leur répond que Jésus-Christ a levé cette malédiction, ils répliqueront aussitôt par ce passage de saint Paul que les femmes soient soumises à leur mari, que les femmes se taisent dans l'Église. Mais quiconque connaît un peu le style de l'Écriture et ses manières de parler verra aisément que ces passages ne nous sont contraires qu'en apparence, car c'est l'ordre de la discipline ecclésiastique que les hommes soient préférés aux femmes dans le ministère sacré, de même que les Juifs étaient préférés aux gentils dans l'ordre des promesses. Mais Dieu ne fait exception de personne. Il n'y a en Jésus-Christ ni mâle ni femelle, mais une nouvelle créature. Et de plus, tous ces airs d'autorité n'ont été promis à l'homme qu'à cause de la dureté de son cœur, de même qu'il a été permis aux Juifs de répudier leurs femmes. Mais tout cela ne blesse en rien la dignité de la femme, et même les femmes redressent souvent les hommes lorsqu'ils se trompent. La reine de Saba ne jugera-t-elle pas un jour les hommes de Jérusalem? Les hommes donc, qui étant justifiés par la foi, ont été faits les enfants d'Abraham, c'est-à-dire les enfants de la promesse, sont soumis à la femme, ils sont obligés d'obéir à un ordre que Dieu donna à Abraham. Faites tout ce que vous dira Sarah, votre femme. Chapitre 30 et dernier. Récapitulation et conclusion de ce traité. Faisons l'abrégé de tout ce traité. Nous y avons prouvé la grandeur et l'excellence des femmes au-dessus des hommes, par le nom donné à la première femme, par l'ordre du temps auquel elle a été créée, par le lieu de sa formation, par la matière dont elle a été faite. Nous l'avons encore montré par des preuves tirées de la religion, de la nature des lois humaines, par différentes autorités, par plusieurs raisons et par une infinité d'exemples. Mais il faut convenir que nous n'en avons pas tant dit, qu'il en reste encore beaucoup plus à dire. Je n'ai point entrepris de faire ce traité par vanité, pour m'attirer des louanges, mais par devoir et par amour de la vérité, craignant qu'en gardant un silence criminel, je ne privasse le beau sexe des louanges qui lui sont dues, et ne devinsse ainsi très coupable d'avoir enfoui le talent que j'avais reçu, ayant connu mieux qu'un autre les raisons de la grandeur et de l'excellence des femmes. Si quelqu'un, plus exact que moi, trouver des preuves nouvelles qui puissent embellir ce traité, loin de le regarder comme un critique mordant, je lui saurai gré de m'avoir secondé et d'avoir rendu par ses lumières et ses recherches ce petit ouvrage plus complet et plus riche. Je le finis ici brusquement, car je craindrais qu'il eût enfin une longueur excessive.